Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International. Cette émission en deuxième partie, bien sûr, de soirée, puisque les matchs de Ligue des Champions ont été joués. Et on commence eh bien, par un champion d'Europe qui vacille sur sa pelouse et sous la neige. Et Paris qui souffre mais qui en profite. Le Bayern battu par le PSG à Munich grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Marquinhos. Trois buts parisiens et deux côté bavarois signés Choupo-Moting et Müller. Navas, on en parlera, a encore réalisé de fantastiques parades et sauvé bien des situations en faveur des Parisiens. Une belle option en tout cas pour le club de Paris de se qualifier en demi-finale. Le PSG peut rêver grand. Autre victoire à l'extérieur, celle de Chelsea face à Porto. Deux buts des Blues, Edouard Mendy infranchissable. Et les hommes de Thomas Tuchel ont fait eux aussi un pas vers la qualification. Inattendu à ce niveau. Retour sur la prestation aussi des Merengues hier soir, la prestation du double buteur, le Brésilien Vinicius, et les bons choix de Zinedine Zidane. Nous en avons parlé dans la première partie de Radio Foot International. David Lortolari, il est toujours là, il est resté. Bonsoir David.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Bien des choses à dire sur cette équipe du Bayern Munich, n'est-ce pas?
Oh oui, absolument. Et le Bayern lui-même a réagi dès la fin du match sur son compte Twitter, je vous en parlerai.
Eh bien, vous nous appâtez déjà. Nabil Djellit, nous avons
Annie, bonsoir
Nabil,
à tous.
Tout va bien?
Bah écoutez, encore un peu émoustillé par cette soirée complètement irrationnelle, ouais. Une soirée folle.
Autant on que a, le temps, là-bas,
on a hâte déjà de voir le match retour entre le Bayern et le Paris Saint-Germain. Mmh,
ça promet, il devrait neiger sur Paris la nuit, juste avant le match retour, donc peut-être un signe. Bonsoir Hugo Moissonnier.
Bonsoir Annie, bonsoir
tout
à tous.
Tout va bien dans cette soirée un peu folle?
Oui, oui, on est au diapason, on va dire en termes de météo, de climat, avec l'Allianz ouais. Arena, ce qui fait très froid dans notre studio. Ça nous prépare également pour le match retour, si je vous suis. Donc,
et puis on est dans l'ambiance. Au diapason de nos camarades qui vous ont tenu en haleine toute la soirée avec ces deux matchs qui se déroulaient donc à Munich et à Séville. Radio Foot, préparé évidemment avec David Finzel et Laurent Salerno. Radio Foot, c'est parti.
Patrick Giroud coupe, il la donne pour Kylian Mbappé. Le but de Kylian Mbappé sur la contre-attaque. Neymar qui avait du champ devant lui, il a temporisé à l'entrée de la surface de réparation. Il donne le ballon sur la droite pour la première véritable incursion des Parisiens dans le camp du Bayern. Et Kylian Mbappé qui remporte son duel face à Manuel Neuer. C'est le PSG qui ouvre le score ici à Munich. Neymar qui remet dans le paquet, si le drapeau ne s'est pas levé, ça fait but pour Marquinhos. Il lève les bras, l'arbitre ne dit rien, alors que les Munichois étaient en train de remonter tout le bloc après le corner. Neymar a donné ce ballon en cloche dans le dos de la défense munichoise. Marquinhos y est allé, l'air de dire mais attendez, je suis hors jeu, et il n'y avait personne si ce n'est Manuel Neuer. Joshua Kimmich qui le donne maintenant côté droit, le centre et la réduction du score. C'est Eric Maxime Choupo-Moting qui a coupé la trajectoire du ballon sur ce centre de Joshua Kimmich. C'est loin d'être terminé à l'Allianz Arena de Munich, 37e minute, et le Bayern qui revient dans la partie. Allez, attention, le coup franc de Kimmich, et voilà, l'égalisation, ils lèvent tous le bras, l'égalisation de Thomas Müller, 2-2. Le but de Kylian Mbappé sur cette contre-attaque des Parisiens. Il est entré dans la surface de réparation et cette fois il n'a pas perdu non pas son duel, mais il a complètement trompé Manuel Neuer qui s'attendait soit à une petite passe en retrait ou à une frappe là-bas côté opposé. Il l'a mise au premier poteau, à ras de terre, et Paris qui reprend les devants dans ce match complètement fou.
Le Champions League. Allez, allez, allez.
Ouais, Thomas Müller, sans doute moins chambreur ce soir et à 7h. En tout cas, c'était un paysage digne d'un soir de Noël pour les acteurs de cette rencontre à Munich ce soir. Et le facteur X inattendu, venu du ciel plutôt que d'ailleurs, ces gros flocons de neige qui sont tombés pendant les 90 minutes de cette rencontre disputée. Donc, et c'est tombé de bout en bout. Le PSG a Eh bien, sous cette neige, réaliser le match quasi parfait. En tout cas, certains parlent d'exploit. Alors, l'exploit, ce sera peut-être le soir de la qualification. Mais en tout cas, à réaliser un grand match inattendu. Colin Dagba résume la prestation de son équipe.
C'est sûr que c'était un match compliqué sur le papier. Venir gagner ici, c'est toujours compliqué. Après, on a été solidaires. Même avec la sortie de Marquis aussi, on a vu, ça nous a pas déstabilisés. Même s'ils sont revenus à 2-2, on a réussi à aller chercher ce troisième but. Et ça a montré la force du collectif ce soir.
La force du collectif. On a vu eh bien, des valeurs peut-être pas toujours constantes chez les Parisiens, Nabil Djellit, parce qu'on a tous en tête le match face à Lille il y a quelques jours. Et là, on a eu l'impression que l'esprit de Ligue des Champions de nouveau tombait sur cette équipe.
Oui, c'est vrai que c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé ce soir. Bon, le Paris Saint-Germain, c'est une constellation en général d'étoiles. Elles ont brillé ce soir. Mais ceux qui sont dans l'ombre, les soldats, finalement,
oui,
c'est eux les.
Il y a pas tant que star finalement.
Il y a Mbappé, Neymar, qui ont fait le boulot, qui ont été cliniques, qui ont été efficaces, de passes décisives pour Neymar, de buts pour Kylian Mbappé. Mais finalement, ceux qui sont sortis un peu, ceux qui sont dans l'ombre, c'est ceux qui ont été mis en lumière ce soir. Ils ont été héroïques, ils ont résisté comme jamais. Oui, Dagba, Idrissa Ganagay, Danilo qui a même changé de poste en cours de match, puisque Marquinhos, qui est quand même le leader d'effort et l'âme de cette équipe, ouais, lui est sorti en cours de match. On a vu un Paris Saint-Germain à contre-emploi, c'est-à-dire pas un Paris Saint-Germain sur ses qualités-là et ses valeurs-là en règle générale. Mais il a été aussi aidé par un gardien, mais on en parlera, absolument exceptionnel, qui est Navas. Parce que malgré voilà toute l'abnégation, la détermination, l'organisation qu'ils ont mis, ils ont souvent été quand même dans le jeu, et on en reparlera, dépassés par le Bayern, qui a une production collective absolument incroyable. Mais ils n'ont pas lâché, et quelque part, ils méritent ce soir, au nom de ces ingrédients-là, leur victoire.
Et d'ailleurs, les statistiques, hein, Hugo Moissonnier, vont plutôt dans le sens de ce que vient de dire Nabil.
Oui, effectivement. Alors, les chiffres, ce n'est pas toujours très radiophonique. Donc, je m'excuse à l'avance auprès de nos auditeurs. Mais il me semble que les statistiques, alors celles qu'on trouve sur le site de l'équipe.fr, puisque j'ai cité ma source, elles sont quand même assez éloquentes. Elles montrent bien quelle a été la physionomie de ce match pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Alors, j'en donne quelques-uns de ces chiffres. 63% de possession pour le Bayern, 36% environ pour le PSG, 522 passes pour le Bayern, 313 côté PSG. On a 24 occasions, c'est répertorié donc par mes statistiques, celles que je suis en train de lire, pour le Bayern, 24 contre 3 côté Paris Saint-Germain, 31 tirs côté Bayern, 6 tirs côté PSG, 12 tirs cadrés, 5 tirs cadrés de l'autre côté. Enfin, en gros, vous voyez un petit peu bien ce qu'est ce tableau. On a eu un petit hold-up quand même réalisé par les gens du PSG, même si effectivement ils ont été à la hauteur de l'événement. Certains mauvais esprits diront que c'est un hold-up quand même.
David Lortolari, votre regard sur ce match?
C'est des matchs qui sont quand même. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire.
On sait que c'est une saison particulière. On sait que tout est inattendu cette année. Là, notamment le nombre de blessés. On va y revenir après. Mais même là, sur le résultat et sur cette prouesse du Paris Saint-Germain, on s'y attendait pas.
Alors, il y a des choses qui se cristallisent à un moment donné dans une saison. Il y a des constantes aussi. Le Bayern encaisse beaucoup de buts en championnat cette saison, beaucoup plus que son dauphin Leipzig. Il avait réussi à corriger le tir le week-end dernier en allant gagner à Leipzig 1-0, mais c'est presque un peu exceptionnel dans la saison du Bayern. Simplement, habituellement, quand il en prend 1, 2 ou 3, le Bayern arrive à en mettre 4 ou 5 ou plus. Là, ça n'a pas été le cas, et donc il y a cette constante sur la saison. Et en revanche, il y a aussi des choses qui sont sur un match, des choses très précises, très particulières, qui sont l'histoire d'un match, avec des blessés, avec des choses qui se passent. Par exemple, dans ce match-là, aux alentours de la demi-heure de jeu, Goretzka, qui est blessé, il met 5 minutes avant de sortir, parce que son entraîneur veut faire entrer Boateng. Boateng n'est pas prêt, finalement, c'est Alphonso Davies qui va entrer. Pendant ce temps-là, Goretzka boitille sur le terrain, le PSG marque un but. Donc il y a des choses comme ça qui sont spécifiques à un match, qui peuvent basculer dans un camp ou dans l'autre, parce qu'en l'occurrence, on a deux très très grosses équipes quand même l'une face à l'autre. Et puis peut-être des petits clins d'œil du destin qui arrangeront le PSG ce soir et qui feront que peut-être ce sera décisif.
Vous êtes gentil avec
sur
les joueurs du Bayern ou avec les hommes du Bayern, l'entraîneur là en l'occurrence. Oui. Puis des erreurs individuelles tout simplement côté bavarois.
Surtout Neuer.
Des erreurs de défense Boateng et puis erreur de coaching si j'en crois ce que.
Alors
si
erreur de coaching sur le banc maladresse.
Il y avait déjà deux changements. Effectivement, vous nous disiez tout à l'heure que Hansi Flick n'utilisait faisait pas toujours ses changements. À la mi-temps, il avait changé deux joueurs. Alors, oui, un blessé, mais...
Il avait aligné le même 11 au départ du match que le week-end dernier. Il a été contraint de faire deux changements en première période parce que les joueurs étaient touchés. Niklas Süle est sorti touché, remplacé donc par Boateng. Et ensuite, Goretzka. Avec Alaba qui est glissé en milieu de terrain. Alphonso Davies qui est entré aussi, qui a d'ailleurs apporté des choses intéressantes. Alors simplement pour parler, donc je disais, une des constantes de la saison c'est la défense du Bayern qui encaisse beaucoup de buts. Une des constantes de la saison Annie aussi, c'est que le Bayern a l'habitude de marquer beaucoup de buts, ce qui fait que ce soir il y a quand même une conjonction dans les commentaires qui sont faits à chaud par les journalistes, les spécialistes en Allemagne. C'est évidemment de la fiction. Si Lewandowski avait été là, voilà, sur 31 tirs, il y en aurait peut-être eu 5 ou 6 qui seraient rentrés.
Oui, mais moi je crois que le coup de trop c'est pas Lewandowski en fait, c'est Serge Gnabry, parce qu'en fait, si vous voulez, ils perdent leur numéro 1, ce qui est déjà problématique, qui est Lewandowski. En général, quand il marque 4 buts, il en met toujours au moins 50%. Ça aurait pu être le scénario du match de ce soir, vous avez raison effectivement. Mais l'absence de Gnabry, qui est quand même extrêmement efficace dans la surface, qui est très mobile.
Porteur du virus.
Voilà, et donc ça les a quand même sérieusement amoindris. C'est vrai que de toute façon, ce Bayern, il assume son déséquilibre, il joue assez haut. Le Paris Saint-Germain a les caractéristiques pour le mettre en difficulté. Il l'avait déjà fait lors de la finale, lors du Final 8, mais ils avaient manqué d'efficacité. Là, l'efficacité, elle a été au rendez-vous, ce qui n'a été absolument pas le cas du Bayern en face, parce qu'ils ont marqué sur des centres, des buts de la tête, ils ont multiplié les combinaisons pour aucun but sur des situations de jeu.
Hugo ?
Oui, je voulais parler justement, on a parlé des absents du Bayern, alors peut-être parler de ceux qui les ont remplacés, en tout cas ceux qui ont mené l'attaque du Bayern ce soir, pour aller dans le sens de ce que dit Nabil. Déjà, je voudrais un petit peu exonérer le remplaçant de Lewandowski à la pointe, à savoir Eric-Maxime Choupo-Moting.
Non, mais il a fait son match,
puisqu'il a marqué le premier but du Bayern ce soir, un beau but de la tête. Donc il a pesé, donc lui, on peut dire qu'il a plutôt fait son job. Mais c'est vrai que Kingsley Coman, buteur lors de la dernière finale de la Ligue des Champions contre le PSG, et Leroy Sané surtout, ils ont brillé par leur capacité, alors certes à multiplier les dribbles, éliminer, provoquer sur leur côté, mais c'est vrai que c'est des joueurs qui manquent peut-être un petit peu de mordant dans le dernier geste. En tout cas, ce soir,
peut-être pas été assez
décisif.
Mais finalement, si on résume ce Bayern-PSG, c'est faiblesse du Bayern dont a su profiter le PSG, ou c'est quand même aussi une grande adresse du Paris Saint-Germain ce soir, dans des conditions en plus, quand même, rappelons-le, c'est vrai que c'était compliqué, cette pelouse, alors même si vous nous aviez dit qu'elle était chauffée, mais
glissante,
enneigée, glissante, le ballon fusait parfois.
Mais le PSG a les caractéristiques pour embêter le Bayern. C'est-à-dire que le Bayern est la meilleure équipe, collectivement c'est la meilleure équipe d'Europe. Je ne sais pas si quelqu'un ici peut dire le contraire.
En tout cas, ils sont champions d'Europe.
Leur jeu est exceptionnel, mais la manière de jouer du Paris Saint-Germain et les éléments qu'ils ont, c'est des éléments qui sont dangereux et qui mettent en lumière les faiblesses du Bayern. Ce soir, lors de la finale, lors du Final 8 à Lisbonne, ils n'ont pas été efficaces. Ce soir, ils ont été efficaces et c'est eux qui ont gagné le match. Ensuite, évidemment, 3 buts, ce n'est pas anodin, mais en face... Moi, je suis d'accord avec Hugo, parce que Robben et Ribéry sur les côtés.
Ils ont mené tout le match, en tout cas.
Ouais, Robben et Ribéry sur les côtés, souvenez-vous, c'était des joueurs qui faisaient des stats. Coman et Leroy Sané sont plus des accélérateurs de particules, des joueurs capables d'éliminer. Et le travail, en général, il était toujours fini, soit par Lewandowski, soit par des milieux qui plongeaient comme Goretzka, Kimmich, ou alors Müller.
Müller maladroit ce soir, parce que plusieurs fois il a eu le ballon et il accompagnait le ballon, mais sans force. Oui, en dehors, mais il a eu plusieurs autres occasions.
Mais c'est un match complètement irréel. Moi, j'ai entendu les statistiques, mais je sais pas, vous avez déjà vu un match de quart de finale de Ligue des Champions, voir une équipe subir 31 tirs. Déjà, quand tu finis le match à 16 ou 17 tirs,
c'est beaucoup.
On dit que t'as fait un match énorme. Là, c'est un scénario de coupe domestique, quoi. De coupe de France ou de coupe d'Allemagne. Entre deux équipes avec une différence et un écart collectif incroyable.
Alors l'efficacité, elle était du côté du Paris Saint-Germain et évidemment avec en majesté le grand Kylian Mbappé, bien aidé par Neymar. Ils se sont bien entendus sur le match. Il y a 2 passes décisives dans ce match de la part de Neymar. Neymar très actif sur le terrain. Mais écoutons le buteur du soir, le double buteur du soir, Kylian Mbappé.
C'est une super performance collective avant tout. J'aime ce genre de match. Après, voilà, ça m'a pas toujours souri. Et peut-être que dans le futur, ça va pas me sourire encore. Mais voilà, comme je le répète, je suis pas là pour me cacher. Et j'aime bien jouer ce genre de match et être décisif.
Il aime bien être décisif, Kylian Mbappé. Ouais. On attendait pas moins de lui. Ce soir, c'était son heure.
Oui, c'était son heure. Il a été replacé dans l'axe. Il a profité du bloc haut du Bayern pour prendre la profondeur. Mais vous avez raison, il y a cette connexion avec Neymar, qui est un magicien incroyable, qui masque sa passe jusqu'au dernier moment et qui la glisse à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui, en fait, on pense qu'il va croiser sa frappe, mais il la rate à moitié. Elle trompe finalement Neuer dans son appréciation. Et puis, il y a ce deuxième but où il ferme son pied au dernier moment. Il fixe Boateng. Normalement, on doit ouvrir, chercher côté opposé. Il ferme sa cheville à la dernière seconde, sur le dernier mouvement. Et là, c'est imparable quand ça part et que ça fuse comme ça. 3 buts face au FC Barcelone. 2 buts face au Bayern Munich. Pour Kylian Mbappé, on est sur des bases très très élevées sur ces matchs à élimination directe.
Hugo ?
Et on voit un peu des actions de la part de Neymar et de Mbappé comme on voudrait en voir souvent. C'est-à-dire que là, ils ont fait exactement l'inverse de ce pourquoi on les critique souvent en championnat, en Ligue 1. Neymar, il n'a pas trop porté le ballon, il l'a donné au bon moment. Et Mbappé, notamment sur son deuxième but, il a fait exactement ce qu'on voudrait voir faire plus souvent, c'est-à-dire... Le bon geste et pas surjouer et jouer vraiment sur ses qualités.
Il y a deux éléments à prendre en compte. En Ligue 1, quand il joue, en règle générale, il y a moins d'espace parce qu'il joue contre des blocs bas. Mmh. Et surtout, l'intensité n'est pas du tout la même quand ils sont pressés. Et donc, ils ont assez de marge.
Est-ce que ça
vient
un peu d'eux aussi, évidemment, leur capacité à se mettre mentalement
soir,
au niveau.
S'il faut être honnête intellectuellement, ce soir, tu n'as pas le choix, en fait. Soit tu la lâches, soit tu es mort. Parce que ça presse, ça va à une vitesse incroyable du côté du Bayern. Et du coup, ça arrange le collectif du Paris Saint-Germain de jouer contre de telles équipes. Mais quand ils jouent Lorient, Nantes, ils sont ils sont un peu avec leur manette à la PlayStation à essayer de faire des concours de dribble.
Il n'y a pas un peu une question d'état d'esprit.
Il y a une question de suffisance. Il y a une question de suffisance en Ligue 1 et d'insuffisance.
La responsabilité de vos propos.
Non, mais on le sait tous. Hein, je veux dire, on est tous assez d'accord là-dessus. Quand tu perds contre Nantes, Lorient, et que t'es battu aussi par Lille et que t'as fait 8 défaites en Ligue 1 avec cet effectif-là et ces joueurs-là, c'est pas normal.
Et puis, ce sont des joueurs qui ne jouent pas toujours sur leur tour. Qualité, simplement sur leur
qualité. Ouais. Après, il y a l'intelligence de jeu quand même de Neymar sur ce match-là, il faut le dire. Sa deuxième passe aussi, qui l'a vu venir, sa deuxième passe comme ça, là. C'est exceptionnel. Il sait être décisif, Neymar, sur les grands joueurs, tu les vois sur les grands matchs.
Pas toujours, mais soir, ils étaient là. Ouais. David Lortolari.
Mais moi, pardon d'être constant, mais je reste sur ma constante. Le Bayern encaisse des buts à tous les matchs cette saison contre n'importe quel adversaire. Donc pour moi, certes, les joueurs décisifs sont les joueurs qui marquent. Faut aller marquer 3 buts à l'Allianz Arena.
3
bien
buts
sûr.
En 3 tirs.
Oui,
David,
non, c'est ça qui est c'est clinique, c'est ce qui fait la différence. Mais il y a une autre partie du PSG qu'il faudrait peut-être pas oublier, c'est l'effort collectif des joueurs qui sont à vocation défensive. Et cet effort-là, il est peut-être plus diffus, il est peut-être moins visible. Il y a peut-être moins d'exploits individuels, de ballons arrêtés sur la ligne, même si Keylor Navas, on en a déjà parlé, a été très solide ce soir.
Il faut pas le
mais
perdre.
La prestation globale défensive du PSG, elle est suffisamment forte aussi pour empêcher que Alaba, qui a une grosse occasion à un moment, cadre son tir. Choupo-Moting, quand il met sa tête sur la transversale, il est pressé aussi correctement par le joueur qui est face à lui. Donc il y a eu aussi les efforts défensifs suffisants, Annie et messieurs, pour que le PSG résiste à ça.
Hugo, il y a eu des choix aussi de Pochettino au départ, parce que par exemple, tout le monde s'imaginait que ça serait Thilo Kehrer sur le côté droit, et finalement, ça a été Colin Dagba qui n'avait joué qu'un seul match en titulaire en Ligue
il
des Champions.
Il a été en difficulté.
On a entendu, qui a été en difficulté notamment en première qui est un peu
justement, en plus, il y a eu des choix de Pochettino parfois surprenants.
Ouais, la titularisation de Draxler également, qui ne fait pas une bonne saison, loin s'en faut, et qui finalement a été utile, notamment sur le troisième but parisien. C'est sa passe qui amène le décalage. C'est-à-dire qu'il avait gros à jouer.
Hugo, il était sous les yeux du sélectionneur, qui ne l'a pas appelé sur les 3 derniers matchs en équipe nationale. Draxler joue aussi sa place à l'Euro en partie.
Il va l'appeler.
Il l'aime bien, mais il y aura une grosse concurrence au milieu de terrain.
Mais il faut souligner également que Kylian Mbappé, même si son deuxième but est caractéristique d'un joueur qui vient de la gauche, qui repique dans l'axe, c'est peut-être sa position préférentielle.
Tout à fait.
Sur la composition d'équipe de départ, il est aligné en pointe. C'est-à-dire que Moïse Kean n'est pas titulaire, et contrairement à ce qui s'était passé au Camp Nou par exemple, Kylian Mbappé est aligné en pointe avec Neymar, Di Maria et puis Draxler. Donc on a peut-être une configuration d'attaque qui peut aider le PSG à aller loin dans cette compétition.
Oui, mais ça dépendra de votre adversaire. Si vous jouez Manchester City, c'est un peu dans la même veine que...
Mais l'idée, c'est d'avoir de l'espace pour le lancer. Bah,
l'idée, eux, c'est de pas faire le jeu. Enfin, j'exagère un peu, parce que collectivement, c'est insuffisant et les latéraux peuvent pas participer. Ils ont déjà du mal à défendre. Là, ils sont dans le spot, comme on dit, qui est le plus favorable. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas être dépassés. Mais
alors, justement, cette titularisation de Draxler sur le côté gauche, est-ce que c'est pas une manière de solutionner les problèmes de repli défensif d'un Mbappé, par exemple, quand il est à gauche et qu'il laisse un peu son latéral tout seul?
Mais après, vous faites un choix. Quel choix vous faites? Vous mettez vos meilleurs joueurs dans les meilleures conditions. Si vous pouvez lui permettre de faire moins d'efforts de repli défensif et de lui dire de jouer à chaque fois qu'il y a des coups, parce qu'il y en a pas très peu, de les jouer à 100%, bah voilà, c'est un pari qui, pour le coup, qui a été gagnant. Mais après, si vous voulez mon sentiment le plus honnête possible, quand vous avez de tels joueurs, collectivement, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est insuffisant ce que propose le Paris Saint-Germain. Alors, ok, la pièce est retombée du bon côté.
C'est minimaliste.
Bah, c'est minimaliste, quoi.
Après,
surtout quand vous voyez le Bayern ce soir, collectivement, si on doit donner une note artistique, on n'est pas là pour donner des notes artistiques. Mais moi, j'ai l'impression d'un ballet, quoi.
Non, mais
j'ai l'impression d'être à l'opéra. Non, mais si on aime le football, si on aime le football pour le football. Le Bayern, c'est le football.
Alors, il y a des équipes qui ont quand même déjà gagné la Ligue des Champions en étant dans un football minimaliste. On se souvient notamment de
Chelsea
en 2012. Et c'est vrai qu'on a un peu envie d'associer ce PSG à ce souvenir-là.
Alors, écoutons Mauricio Pochettino, l'entraîneur de cette équipe parisienne, parce que à la fin du match, eh bien, il a tenu à féliciter ses joueurs.
Je suis content pour le résultat, pour l'attitude de mon équipe. Ils se sont retrouvés dans des situations très difficiles contre un adversaire. Bon, c'est le Bayern. Hein. Ces dernières années, ça a été la meilleure équipe d'Europe. Donc, il faut vraiment féliciter mes joueurs. Ils ont beaucoup de mérite. Ils ont eu un état d'esprit énorme, un sens du sacrifice remarquable. Et on cherche ça, nous, à répéter ces performances sur différents matchs pour avoir cette régularité.
Répéter les efforts. Ouais. Mauricio Pochettino, quelle note vous lui mettez pour ses choix ce soir?
Ce soir.
Les choix ou pour l'état d'esprit qu'il a réussi à insuffler, un peu comme à Barcelone? Parce que finalement, c'est son deuxième moment important.
Il faut être honnête intellectuellement ce
match
soir, et son pari a été gagné. Alors, certes, dans des circonstances avec une réussite maximale, mais la réussite en général, on la provoque. Mm-hmm. Il a fait des choix qui ont été payants. Il a réorganisé son équipe. Danilo, que Tuchel utilisait en charnière centrale, eh ben, il lui a demandé de redescendre. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir, et c'est la question, je pense, sous-jacente que Hugo entendait, c'est est-ce que le Paris Saint-Germain va apprécier, est-ce que certains joueurs du Paris Saint-Germain vont apprécier cette culture de l'effort ensemble? Parce que ce soir, c'est une équipe qui a travaillé ensemble, parce qu'elle n'avait pas le choix, parce qu'en face, c'était exceptionnel collectivement. Est-ce qu'ils sont capables de reproduire ça, mais pas qu'en Ligue des Champions, en Ligue 1 également? C'est le niveau d'exigence.
Mbappé a tout de suite salué l'esprit collectif et l'esprit d'union sur le terrain, en disant, mais maintenant, il faut penser à Strasbourg, ce qui était vraiment... Il est là-bas à Munich, il a marqué un doublé, il nous parle de Strasbourg, alors qu'on a vu...
C'est pas très loin.
Ouais. Sauf que parfois, on l'a vu un peu moins motivé dans ces matchs-là.
Après, c'est un peu ce Paris Saint-Germain est un peu contradictoire, parce que Pochettino, on peut mettre à son crédit une victoire au Nou Camp. C'est pas quelque chose qui arrive fréquemment dans l'histoire du football français. Mm-hmm. Il vient de faire tomber le Bayern à Munich. C'est quand même quelque chose qui est.
Mm-hmm. Mais est-ce qu'il y a vraiment une patte Pochettino sur ces victoires-là? C'est un petit peu ça qu'on a du mal
c'est la question qu'on se pose.
Il a choisi une organisation, il a quand même mis 4 offensifs ce soir.
Oui, mais on n'a pas l'impression que le PSG propose un visage tactique très différent de celui de Tourelle. Ça reste de donner le ballon à Neymar pour
lancer Mbappé. Oui, à Neymar, débrouille-toi et trouve Mbappé dans la profondeur. Après,
alors, Tourelle, c'est déjà ça.
Mais c'est sûr que ça souffre de la comparaison ce soir, quand on voit ce que produit le Bayern, quand on voit comment joue Manchester City hier, quand on voit comment joue aussi Dortmund, quand le Real également, qui a des principes de jeu. Bon, le Paris Saint-Germain, c'est là, ils sont plus forts que nous. Bon, il va falloir faire un peu plus d'efforts que d'habitude. Et Neymar et Mbappé, les gars, comme vous êtes les plus forts et que vous avez envie de briller, ce soir, débrouillez-vous. Et c'est ce qu'ils ont fait.
Alors, écoutons une réaction quand même du côté des Bavarois. Et Benjamin Pavard parle, eh bien, évidemment, de la frustration de ses coéquipiers.
On est frustrés. Je pense qu'on méritait de gagner ce match. On avait la possession, on avait plus de tirs. Voilà, bravo à Paris, ils ont fait leur match, ils ont eu plus d'occasion et ils ont su les convertir, donc bravo à eux, mais dans une semaine, il y a un match retour et on va tout faire pour se qualifier là-bas.
Ah oui, ils se projettent déjà sur le match retour, Benjamin Pavard. c'est ce que dit aussi le club. Hein.
Exact. Oui, la première réaction. Oui, au coup de sifflet final, effectivement,
le message
officiel, c'était maintenant on est tout de suite dans le match retour et ça va réussir au match retour. Il y aura quand même un handicap supplémentaire en plus des très probables absences de Lewandowski, qui a lui-même expliqué que c'était trop tôt pour revenir dans quelques jours. Et Gnabry, c'est que Süle, qui est sorti en première période, et Goretzka, qui est lui aussi sorti en première période, ça a été confirmé par l'entraîneur il y a quelques minutes, ont eu des soucis musculaires. Donc c'est probable, ils seront aussi très incertains pour le retour. Ça peut être très important. L'absence de Goretzka en deuxième période a été quand même aussi pour le Bayern un problème. Il avait marqué en championnat contre Leipzig.
Et Gnabry, on en sait un peu plus parce que Gnabry, c'est important. Il peut prendre Gnabry, à la différence de Leroy Sané et Coman, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire jouer dans l'axe, vous pouvez le faire jouer sur
bien
les
sûr.
Côtés et
lui, il repique
et est beaucoup plus efficace. On l'avait vu lors du Final 8 face à Lyon, il était parti dans une action
beaucoup plus finisseur que les deux autres.
Il est beaucoup plus finisseur. Alors est-ce qu'on
ça va dépendre des tests anti-Covid,
oui, anti-Covid, hein, ça malheureusement ça oui. va être ça. Côté français en tout cas, on a vu certains se sont inquiétés de voir Kylian Mbappé légèrement boiter en quittant le terrain juste au dernier moment au coup de sifflet final. Il a rassuré tout de suite, ou il a essayé de rassurer en disant qu'il avait pris un coup sur le haut du tibia, que ça faisait mal, mais qu'a priori ça n'était pas grave.
C'est juste Neymar dont il faut surveiller quand même, Mani, parce qu'il a eu, on a eu l'impression qu'il a eu des petits soucis ouais. musculaires en cours de match. Il a fini très épuisé.
Tout cela, Nabil, ça illustre cette saison et on l'avait vu quand même là. C'est des joueurs qui sont ultra fatigués.
Ah ben ils sont tous fatigués. Ils sortent d'une semaine internationale.
Et du coup, ça conduit à des blessures. Alors là, avec la neige en plus, ce temps très froid et tout, ça accentue tous les.
Oui, les blessures musculaires sont liées aussi à parfois la. Au climat.
Pendant les rencontres internationales.
Mais là, ça tombe comme des mouches. Je veux dire, on n'a jamais vu ça en cours de match.
Exactement.
Qui est le prochain? C'est qui est le prochain? On attend qu'il y a
ça s'apparente à des sports comme des sports où la rotation est beaucoup plus régulière, comme exactement. Dans les sports américains, par exemple.
Et c'est là que la profondeur de banc est importante.
Et Marquinhos, là. Marquinhos,
attendez. Marquinhos, il ne faut pas qu'il soit absent un mois. Parce que s'il passe le Bayern, ce que je leur souhaite, Marquinhos, il est hyper important.
Et d'ailleurs, on l'a vu, puisque le but de la réduction de l'écart du Bayern, c'est Danilo Pereira qui est au mariage. Justement, il n'était pas, il l'a pas vraiment collé Choupo-Moting. Et voilà, on a vu que Danilo Pereira, contrairement à ce que pensait Tourelle, n'est pas un défenseur central. Et sur ce genre
non,
de
ballon,
Marquinhos,
à l'anticipation.
Sur ce genre d'action décisive, Marquinhos, il manque.
Dernière illustration sonore, hein, grâce à nos confrères évidemment de RMC qui sont en bord de terrain, puisqu'ils retransmettent, ils ont l'exclusivité de la retransmission de tous ces matchs. Eh bien, c'est Draxler. Draxler qui évoque, lui, déjà le match retour.
Ça va être encore un match très très difficile. Je suis sûr que ça va être un travail très très dur. Là, juste après le match, c'est difficile de déjà préparer ça parce que là, on est KO. On va rentrer calmement à Paris et après, on va analyser, faire un plan avec notre coach pour le match retour. Mais c'est sûr que ça va pas être facile. C'était que le premier match aujourd'hui, il faut pas oublier. Et on va préparer le deuxième match de la meilleure manière.
Julian Draxler qui donc évidemment promet un match retour à la hauteur.
Oui.
Vous aviez
un coup de cœur.
Évidemment sur le match retour, on aura largement le temps d'en reparler dans Radio Foot International, mais un coup de cœur
oui.
Nabil.
Bah il a été souvent critiqué, on a été un petit peu déçu par ses performances, notamment qu'il avait laissé entrevoir d'énormes espoirs quand il est arrivé. C'est Idrissa Gana Gueye, le Sénégalais, qui avait été énorme face au Real Madrid il y a deux saisons de ça. Je trouve que ce soir, il a vraiment pas donné sa part au chien, si je puis me permettre d'utiliser cette expression. Beaucoup de volume, beaucoup de grinta, l'utilisation aussi du ballon de manière intelligente de la part de l'international sénégalais, que je vois comme le parfait complément avec Marco Verratti au milieu du terrain du côté du Paris Saint-Germain. C'est un garçon qui a des qualités. Peut-être que parfois, au niveau du mental ou du caractère, quand vous êtes dans des gros clubs comme ça, être mis en concurrence, pas être mis dans les meilleures conditions psychologiques, ça peut parfois vous mettre un peu dans le dur.
Dans
et je crois
doute.
Que ça doit être. Je pense que c'est le cas de ce genre de joueur qui a plus traversé une crise de confiance que réellement une crise de qualité,
de
parce que bon, c'est
Pochettino lui fait confiance.
Voilà, il lui fait confiance.
Le met en confiance en tout cas.
Et c'est un garçon qui a du volume. Et vous n'avez pas été un des meilleurs milieux récupérateurs de première ligue sur plusieurs saisons par hasard.
Hugo,
on peut même également parler d'Ander Herrera, qui n'est pas exactement l'un des hommes forts du PSG cette saison, qui a fait une excellente
entrée
en jeu quand justement Danilo a été obligé de reculer. Côté de Ganagay, il a été quand même très précieux, Ander Herrera. Donc c'est vrai que, entre guillemets, ces héros de l'ombre dont certains jugent que leur niveau est insuffisant pour faire progresser le PSG ont quand même été plutôt à la hauteur de l'événement. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'avec cette saison exceptionnelle au sens premier
du terme,
parce que voilà, les questions de physique, les questions des aléas dues à la crise sanitaire vont jouer, on se dit que cet état d'esprit que le PSG semble tout de même avoir et cette réussite, pour ne pas dire
dans cette compétition,
Ligue des Champions, et ben peut-être que à l'image encore une fois de ce qui s'était passé pour Chelsea en 2012 dans un autre contexte à une autre époque, ça peut être un facteur très décisif. C'est-à-dire que peut-être que les qualités footballistiques et vos qualités tactiques, techniques comme celle du Bayern ne vont pas suffire en Ligue des Champions cette saison, vu l'année exceptionnelle, la saison exceptionnelle que nous sommes en train de vivre.
En tout cas, Hansi Flick, qui avait disputé ce soir son 17e match de Ligue des Champions, c'était sa première défaite après 15 victoires et un nul. Alors, on verra si il arrivera à n'en avoir qu'une de défaite la prochaine fois.
Oui, et à continuer de faire comme il fait toujours jusqu'ici, c'est-à-dire transmettre sa confiance inébranlable à ses joueurs.
Mmh, ouais. C'est ce qu'on verra. Il y avait un autre match. Alors, vous avez compris, on était tous un peu emballés par cette rencontre Bayern-PSG.
C'est quasiment, Annie, en termes de scénario, c'est quasiment le match de l'année pour l'instant en Ligue des Champions. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
C'était en tout cas assez intéressant. Bon, je pense que aussi ce qui s'était passé à Barcelone l'autre fois.
Ouais, mais l'équipe est plus forte. C'est les champions d'Europe en titre.
Et puis là, ils sont revenus au. Et puis,
là, on ne pourra pas dire qu'ils ont battu une équipe en reconstruction.
Et puis, ils sont surtout revenus au score par deux fois. Eh bien, il y avait donc notre match. Alors, c'était sur un terrain neutre, on l'avait dit tout à l'heure. C'était à Séville. Et ce match, c'était entre le FC Porto, les Dragons, et le Chelsea, les Blues de Chelsea, venus de Londres. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together.
Okay, 3, 2, 1, let's jam. Mason Mount, l'anglais qui enrhume totalement le malheureux Zaïdou Sanoussi, le latéral nigérian, puis il se retourne, il est face au but, face à Marquezine, il croise parfaitement sa frappe. Mason Mount, c'est la première occasion de Chelsea dans cette rencontre, et Chelsea qui prend l'avantage. Encore les Blues de Chelsea, on dribble le gardien et on marque, ça va faire 2-0 pour Chelsea qui s'impose grâce à Chilwell, l'arrière gauche, acheté à prix d'or 50 millions d'euros l'été dernier. Là, il a piqué la balle dans les pieds de Corona, l'ailier droit de Porto. Il s'est présenté tout seul face à Marquezine. Il a dribblé, il a marqué dans le but vide. Ça va faire 2-0. Une excellente opération pour Chelsea. C'est très très bien payé de gagner 2-0 ce match-là.
Bon, alors, il y a eu deux buts de la part des joueurs des Blues, donc de la part de Chelsea. Qui a suivi?
Moi, j'ai jeté un coup d'œil. Bon, j'ai discuté avec des amis qui faisaient un papier autour du match également, pour être très honnête. Bah, Chelsea est vraiment, c'est un maximum de
chanceux.
Réussite, oui.
Ouais. Parce qu'on a vu Porto.
Efficace, comme Paris.
Oui, on a vu Porto, match chanceux par contre.
Ouais, produire du jeu, manquer également d'efficacité, quelques situations litigieuses, mais la verticalité mise en place par Tuchel a fait la différence avec un garçon qui marche un peu sur l'eau, on le voit avec l'équipe d'Angleterre. C'est un des hommes forts depuis que Tuchel est arrivé. Bon, il faisait déjà des bonnes choses avec Lampard, c'est Mason Mount. Moi, que j'ai vu décisif encore une fois. Après, il avait fait des choix forts quand même au niveau de sa composition d'équipe. Il s'était passé de Giroud, qui avait été très bon du côté de l'Atlético, et également de l'international marocain qui pioche un peu, qui a une saison un petit peu d'adaptation compliquée, à Hakim Ziyech. Et donc, il avait le choix un peu de la verticalité avec Averetz, l'allemand, Werner également, qui était présent. Après, cette équipe de Chelsea, je pense qu'elle a moins de maîtrise depuis la blessure d'N'Golo Kanté. Alors, je suis moins convaincu par le doublon Jorginho-Kovacic. Je préfère Kovacic avec N'Golo.
Ils ont été bons à Madrid.
Ils ont été bons, mais en championnat, c'est aussi, il a fait vivre une petite renaissance avec N'Golo Kanté, qu'on a vu aussi excellent en équipe de France, et qui s'est blessé d'ailleurs avec l'équipe de France. Et je pense que lorsqu'il y a un petit peu de pressing et d'intensité, vaut mieux avoir un Kanté avec un Kovacic ou un Kanté avec Jorginho que plutôt les deux autres. Mais après, oui, ça n'empêche que face à l'Atlético, il faut dire que l'Atlético, ils n'ont pas joué, ils sont restés, ils ont attendu.
C'est vrai. Mm-hmm. C'est vrai.
David
Bah, y a deux choses que je souhaiterais souligner ce soir. C'est la
Avec un stabilo ou pas?
Ouais, non. Il n'y a pas besoin.
Un stabilo fluo comme non. Le maillot rose de Chelsea.
Non, mais
ce soir.
Vous avez
fluo. Vous avez
évoqué une saison particulière avec la dimension physique qui sera peut-être importante. Dans une saison comme ça, il faut être efficace. Vous l'avez souligné. Nabil a parlé d'un Porto intéressant, mais à l'arrivée, les buts sont côté de Chelsea. Donc ça, de toute façon, quand vous arrivez en avril, en quart et en demi-finale de Ligue des Champions, malheureusement, peut-être pour les romantiques, c'est une constante. Rudiger plus Werner plus Havertz, les trois jouent leur place là aussi pour l'équipe nationale allemande à l'Euro. Et c'est intéressant de la part de Tuchel qui lui aussi est allemand, donc il y a peut-être une connexion aussi, mais restons objectifs pour le coup. Ces trois-là avaient aussi un match important à disputer là. Chelsea, on en a parlé, Annie, souvenez-vous aussi avant le match dans l'émission de l'après-midi, il y avait une petite marge pour Chelsea. Elle se vérifie au score et ça sera compliqué quand même pour Porto au match retour.
Ah oui, ils sont condamnés à l'exploit. Maintenant, Porto, c'est dommage, ils ont raté un peu le coche. Mais on a quand même l'impression que ce côté du tableau est quand même extrêmement favorable au Real. Alors le Real n'est pas encore qualifié parce que Liverpool, avec son but hier, reste dans le coup. Mais
on va y venir au Real tout à l'heure. Hugo ?
Oui, moi je serais quand même assez attentif au parcours de Chelsea, déjà parce qu'ils ont un bon gardien sénégalais, Edouard Mendy qui a de nouveau bien tenu
encore,
la baraque
encore
ce
une,
soir.
Encore une feuille de match
parce que ce que fait Tourelle tout simplement est cohérent et alors même il y a eu un gros couac en championnat le week-end dernier.
Face à West Bromwich Albion, oui.
Mais tout de même, il y a quelque chose de l'ordre de la continuité. On sent quand même qu'il est arrivé à construire quelque chose avec cette équipe. On rappelle que c'est le seul grand club ayant investi beaucoup d'argent lors du dernier mercato. Donc c'est aussi un effectif qui est riche. On parle, si vous pouvez vous passer de Ziyech, si vous pouvez vous passer de Giroud, c'est que vous avez des ressources. Donc et tout simplement, ça se maintient. Et là, ils ont quand même un pied et demi en demi-finale. Donc Chelsea, c'est à suivre, même si c'est pas flamboyant.
Tout à fait.
On les met pas forcément d'office parmi les favoris et peut-être qu'on se trompe.
Le match retour se déroulera sur la même pelouse de Séville et ça sera là aussi la semaine prochaine. Allez, on termine cette émission et on revient au débat que nous avons eu dans la première partie de Radio Foot. On mettait en valeur deux des personnages de la soirée d'hier et il y a Vinicius, le double buteur du côté du Real, et puis évidemment le travail de Zinedine Zidane.
Puede ser Vinicius gol del Real Madrid, apareció Vini, sí, samba para ti, gol para ti, gol para el Real Madrid, música para la Casa Blanca, música de Vinicius, música de Champions. Hace el aguante Karim, se la pasó a Modric, con la zurda Modric, sí, pero para Vinicius, gol, gol.
Les Merengue, vainqueurs hier soir sur le même score qu'il y a 3 ans d'ailleurs, hein, même si les deux entraîneurs nous avaient assuré avant le match que cette nouvelle confrontation n'avait rien à voir, on avait un score de 3-1. Mais évidemment, il reste un match retour. En tout cas, le leader de cette attaque hier, c'était le Brésilien Vinicius. Vinicius Junior ou encore Vini, comme on peut le lire sur son maillot désormais. Et Zidane était très élogieux.
Je suis content pour lui en tous les cas, c'est ce qu'il avait besoin, je pense qu'il avait besoin de marquer. Il a toujours fait tout bien, enfin, je pense que défensivement il fait des efforts incroyables, offensivement c'est quelqu'un qui prend les espaces et qui fait des différences et c'est vrai qu'il lui a manqué, il a manqué peut-être dernièrement le but, donc ce soir il a marqué 2, c'est un match important, ça va lui faire du bien, je pense que ça va lui donner une énergie incroyable d'avoir marqué, c'est très positif pour lui et pour nous.
Vinicius encensé ce matin alors par la presse espagnole, hein, pour Marca c'est Vinicius couronné, pour AS c'est Vini, Vidi, Vici, bon alors c'est pas Jules César mais c'était facile. La presse espagnole dit aussi il a été notre Cristiano, hein, évidemment cette équipe orpheline depuis si longtemps de Cristiano Ronaldo. Il y a aussi la presse du Brésil qui ne le perd pas de l'œil, ce joueur qui est parti à 16 ans de Flamengo et qui parle d'un craqué. Alors quand on parle d'un craqué là-bas, c'est vraiment le best du moment, le meilleur. Ce Vinicius, déjà en sélection, hein, convoqué il y a quelques mois par Tite. Bref, est-ce que vous avez vu finalement hier Vinicius, Patrick Juillard, passer un cap?
Ah oui, oui, pour moi c'est son meilleur match depuis qu'il est au Real Madrid.
C'est la première fois depuis qu'il avait quitté Flamengo qu'il marquait deux buts dans un match important.
Voilà, parce qu'il a déjà fait des bons matchs contre des équipes de Liga lambda, disons, mais là, sur un match important, quand même, contre un ancien vainqueur récent de la Ligue des Champions, contre une équipe championne d'Angleterre.
Méconnaissable, bon, mais bon.
Oui, mais malgré tout, qui a une expérience de la Ligue des Champions exceptionnelle, qui est au rendez-vous tous les ans depuis presque 5 ans, 6 ans, c'est fort de faire ça. Et surtout, ce que j'ai apprécié, alors les buts, il joue sur sa vitesse et sa fougue, son finish, mais surtout ce qui est bien dans le match, c'est qu'en début de match, il a vraiment joué comme un ailier, il a étiré la défense en faisant des appels le long de la ligne, en travaillant un peu les défenseurs sur la largeur comme ça, et petit à petit, il s'est un peu mué en avant-centre bis, en repiquant vraiment, en se servant aussi du travail que faisaient Benzema et Asensio.
La preuve sur son deuxième but.
Et il a montré aussi qu'il pouvait avoir un registre beaucoup plus vaste que celui d'un joueur qui fait des allers-retours le long de la ligne. Et ça, c'est bien parce que c'était un joueur hyper doué, Vinicius, mais il avait montré des limites tactiques. Il était un peu limité parfois dans la manière
dans la
de se situer
aussi.
Dans l'espace, tout ça. Et là, hier, il a fait preuve d'une science du jeu et du but remarquable. Donc, bravo à lui.
David Ortolari, on sait que Zidane le couvait. On sait qu'à l'entraînement, notamment, il lui donnait des conseils pour justement être plus efficace. Est-ce que c'est l'aboutissement, finalement, de ce travail? Il est arrivé il y a 3 saisons maintenant. Et on se demandait s'il trouverait sa place dans cet effectif. Peut-être l'a-t-il trouvé.
C'est un palier essentiel, Annie, parce que dans des clubs de ce standing, je pense à des exemples aussi vus au Bayern ou peut-être dans des clubs, les rares clubs qui sont à ce niveau-là, il y a quand même pas mal de joueurs aussi qui butent sur la dernière marche, c'est-à-dire avoir de la confiance, réussir une série de matchs, s'imposer. Et il y a des joueurs qui étaient brillantissimes, qui sont brillantissimes intrinsèquement et qui sont obligés de repartir au bout d'une saison, une demi-saison, une saison ou deux parce que ils n'ont pas réussi à s'installer. Ça peut être un élément utile pour son installation parce que c'est quand même encore un très jeune joueur.
Mais c'est ça.
20 ans.
Il a 20 ans.
Et donc Annie, par rapport à ce que vous disiez sur l'attitude de son entraîneur Zidane, un bon point pour Zinedine Zidane, le coup.
D'autant qu'on sait qu'il y avait eu quelques bisbilles, des critiques en interne. Benzema, alors ça avait été pris par capté par des caméras et du coup ça avait semé un peu la zizanie, avait dit à Ferland Mendy, il fait ce qu'il veut, ce joueur, en tout cas, c'est clairement, il joue contre nous. ça marque les esprits dans un vestiaire où ça fait partie de la vie commune. C'était le moment de l'instant.
Je pense que c'était
parce que là la belle
c'est des faits qui existent depuis toujours dans les vestiaires. C'est des énervements qui peuvent être vrais aussi par rapport à un comportement unique ou du moment.
Sur qui vous avez déjà dit
sur, ça non, je sais pas. Moi j'ai dû dire j'ai dû dire des choses, c'est sûr. Ça c'est sûr.
Ah, oui, je sais.
Ça arrive.
Il y avait pas des micro caméras.
Non mais même je veux dire ça fait partie d'une vie de vestiaire. Donc forcément, ça, pour moi, ça c'est pas très grave. Vinicius, il a 20 ans. Donc 20 ans, c'est quand même. Il a déjà glané cette expérience avant. Maintenant, il arrive à 20 ans.
Puis on l'a
on
lancé
attend
très
beaucoup
tôt,
de choses de lui.
Oui, voilà.
C'est peut-être, comme tu disais, son match le plus abouti, mais pas que sur la performance offensive, sur la performance défensive aussi.
C'est-à-dire sur la globalité.
Il a travaillé énormément pour l'équipe. Il doit se servir de ce match-là comme référence, forcément. Est-ce qu'il est capable de renouveler la performance, mais avec la globalité, c'est-à-dire ce travail défensif plus cette performance de finition et d'efficacité, la simplicité de son deuxième but où il surprend tout le monde en fait, c'est assez incroyable, c'est-à-dire que t'as l'impression qu'il va contrôler, qu'il va faire, et puis d'un seul coup, puis déclenche et il surprend tout le monde. Et ben voilà, il doit réussir à garder cet état d'esprit et d'être
en fait,
disponible comme ça.
En fait, il faut qu'il mette sa fougue au service de l'équipe.
Exactement.
Mais sans la canaliser trop, parce que sinon il va perdre ce qui fait sa qualité. Quoi.
Parce que ses qualités n'ont jamais été le problème. C'est juste que voilà, sa régularité, son le fait de s'installer dans un poste de vrai titulaire.
En tout cas, il il lui faudra peut-être confirmer dès le Classico au cours du week-end. Et puis, évidemment, il y aura le match retour. Je voulais qu'on s'arrête quelques instants aussi, c'est sur Zinedine Zidane. Est-ce que pour vous, en gagnant cette bataille finalement contre Jürgen Klopp, alors certains, on le sait, Liverpool va moins bien, la défense est décimée depuis des mois et finalement il n'y a pas d'amélioration. Mais est-ce que c'est un entraîneur à part? Je sais que vous aimez bien la tactique, David Lortolari. Ces histoires de 4-3-3, de 3-5-2 et tout, on a l'impression que c'est pas ce qu'il guide. Ce qui le guide, c'est le ressenti, c'est la science du foot et finalement du haut niveau qu'il a vécu et qu'il a eu la chance de pratiquer si longtemps.
Ah mais c'est sûr que vous pourrez chercher.
Qu'on entend beaucoup de critiques. Oui, c'est pas vraiment. Il a de la chance. Il sait naviguer avec les égos. Enfin, on entend ça plus que c'est un bon tacticien. Hier soir, Rémi Ngono était assis à votre place. Patrick Juha, il nous disait, il nous a expliqué comment il avait piégé Klopp tactiquement.
Oui, alors vous avez répondu en partie à la question, Annie, parce que ça fait quand même deux fois que vous insistez à juste titre sur le fait que Liverpool était pas dans le coup pour ce match-là, donc ça quand même. Mais Zidane, oui, c'est-à-dire que si vous prenez des psychopathes de la tactique, des Tourelle, des Nagelsmann, des gens qui vont être uniquement sur ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a un moment où il y a plus de la communication, la compréhension se fait pas avec le groupe. Klopp, peut-être est-il en train de, je veux surtout pas lui souhaiter ça, mais par le passé ça a été le cas. Il y a eu un moment où au bout de deux ou trois saisons, on arrivait au bout, il y avait plus d'essence, il y avait plus de communication possible parce qu'il avait tout tiré de son effectif. Zinedine Zidane, à mon sens, se tire de ces deux écueils-là. Le premier, parce qu'il est un excellent manager, sans doute, pour les égos, parce que, évidemment, on respecte Zidane pour tout ce qu'il a fait comme joueur.
Ça joue aussi.
Et à côté de ça, il semble aussi, peut-être en bonne entente aussi avec l'entraîneur, avec le président Pérez, mais il semble aussi être capable de longévité. Donc, ça veut dire qu'il a les deux qualités, à la fois gérer avec les qualités tactiques nécessaires sur le long terme, et aussi ménager suffisamment les uns les autres pour pouvoir durer, lui, à son poste. Parce qu'en plus, au Real, on peut dégager au bout de trois matchs.
Mais oui, mais Eric Rabé. Bien sûr, sauf qu'il a la confiance de son président, il a la confiance de ses joueurs, ce qui est quand même extraordinaire. Bah
oui,
ce qui
pour
est
moi,
difficile,
c'est l'essentiel.
Bien sûr.
Ouais.
Et il garde des résultats.
Parce que la saison n'était pas simple.
Pour revenir sur ce que tu disais par rapport au 3-5-2 ou 4-4-2, en fait, c'est pas important ça. L'important, c'est l'animation que tu as dans cette tactique-là. Et en fait, c'est là où il arrive à tirer le meilleur de ses joueurs. C'est-à-dire que même si cette relation privilégiée qu'il a avec les joueurs, elle peut être sentie par rapport à l'animation qu'il va y avoir par rapport à cette tactique. Mais sinon, il n'a pas réellement de tactique. C'est juste l'animation et ce qu'il tire de ses joueurs aussi, c'est vrai.
Il fait quelque chose de classique. Oui. Globalement, c'est du 4-3-3 classique. C'est pas révolutionnaire, c'est bien, classique.
Mais c'est toujours adapté à ses joueurs aussi.
C'est quelque chose qui marche, qui
est
éprouvé. Mais alors, ce qui me frappe, c'est combien. Alors, je sais pas quelle est sa part à lui.
Parce qu'on dit qu'il y a pas un style, Zidane,
Patrick. Bah, il y a quand même un style avec un jeu assez rapide vers l'avant. C'est pas un fanat de la possession. Parfois, les séquences de handball de Guardiola, il y en a pas chez Zidane. Mais par contre, non.
Il y en a eu hier soir, mais dans l'autre match.
Oui, voilà. Mais si vous voulez, ce qui m'a frappé, moi, c'est combien il a remis en route ce milieu de terrain qui était à bout de souffle, Casemiro, Modric, Kroos. Là, ils pétaient le feu hier. Donc, quelle est la part de Zidane là-dedans? Est-ce que c'est lui qui les motive sur les gros matchs, ou est-ce qu'il a
son staff
un
aussi,
bon préparateur physique? Est-ce qu'il sait leur parler pour savoir exactement à quel moment de la saison, sur quel match,
c'est
il peut
le chef, en tout cas.
Se mettre au diapason de ce qu'il veut? En tout cas, c'est tombé parfaitement hier. Ils étaient dans leur pic, visiblement, dans un pic de forme au bon moment.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission de Radio Foot International, de cette soirée folle de Ligue des Champions avec, je vous le rappelle, la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Bayern Munich sur le score de 3-2. Et du côté de l'autre match de l'Espagne, eh bien, c'est Chelsea qui l'a emporté sur le score de 2-0 face au Porto. FC, merci beaucoup messieurs.
Merci Annie, merci à tous.
C'était une sacrée soirée, Nabil.
Il y en aura d'autres.
Oui, il y en aura d'autres, notamment la semaine prochaine.
Peut-être bien dans 15 jours. Merci beaucoup,
merci
David.
Annie.
Merci Hugo.
Et merci à vous.
On se dit à très bientôt tous. Et demain, évidemment, il y aura le bilan de ces soirées de Ligue des Champions. Merci à tous.